Deux fois le pasteur de l'église de Cahors, surtout salue bien les frères et sœurs de l'église de Figeac. Donc, je vous salue de la part de l'église de Cahors, qui pense bien à vous. Voilà.
Merci.
Alors oui, on va jouer, plus que jouer, on va pas jouer les prolongations, mais prolonger ces moments autour de cette église de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire après avoir parcouru cette église? C'est bien, vous savez, de prendre de la hauteur. Jusqu'à présent, on était resté au-dessus d'une église à la fois. Et là, on va prendre un peu plus de hauteur, essayer de voir le panorama des sept églises. Qu'est-ce que ça a nous apporté de voir, avoir une vue d'ensemble? Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble, parce que c'est intéressant justement de prendre ce temps d'aller plus loin en profondeur. C'est une démarche qu'on est appelé à faire pour toute l'Écriture, hein, de voir comment tout se tient. Et alors, ce sont les églises du premier siècle. En quoi est-ce qu'elles nous concernent aujourd'hui? Aujourd'hui, vous à Figeac, à Cahors, à Toulouse, partout où on se réunit pour célébrer le Seigneur. Et j'aimerais vous poser cette question, justement pour vous situer. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Sans vous demander une réponse audible. Mais pourquoi est-ce que nous nous réunissons le matin? Qu'est-ce qui motive de vous lever le dimanche matin pour venir à l'église? Alors, est-ce parce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce parce que on est bien ensemble à écouter la parole de Dieu? Amen.
Amen.
Oui. Est-ce que c'est pour adorer Dieu? Amen. Est-ce que parce qu'il y a une bonne musique? Oui, elle nous transporte pour adorer Dieu, quand on apprécie la qualité, hein, chez les musiciens. Est-ce parce que c'est un endroit où on se sent écouté, dans ce monde où tout va vite, où on cherche une écoute attentive? Oui, ça devrait en tout cas être un endroit où on peut trouver de l'écoute. Alors, pourquoi l'Église? Pourquoi tout ça, on le trouve? On devrait le trouver dans l'Église. Eh bien, il est bien de nous poser la question, les origines de l'Église. Pourquoi l'Église? D'où vient l'Église? Et où va l'Église? D'où vient l'Église et où va l'Église? Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse, vers la fin, voici ce qu'il dit, Apocalypse 22, 12 et 13. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Alpha, vous savez, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière. Eh bien, Jésus, il est l'alpha et l'oméga de son Église. Il est l'alpha et l'oméga de son Église. C'est ce que je vous propose justement de voir, à partir de cette synthèse, comment Jésus est l'alpha de l'Église? Comment il en est l'origine? Deuxièmement, pourquoi ces sept lettres adressées aux Églises du premier siècle nous concernent-elles tous aujourd'hui? Troisièmement, je vous proposerai de voir, il n'y a que deux églises sur sept qui ne reçoivent pas de reproche, aucun reproche. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux églises? Toutes les autres, elles ont au moins un reproche. Et il y en a une qui a que des reproches, c'est l'église de Laodicée. Elle reste toujours aimée du Seigneur. Et quatrièmement, nous verrons, la fin. Jésus est l'oméga de l'église. Il en est l'aboutissement, le but suprême. Donc premièrement, voyons Jésus qui est à l'origine. Il est l'alpha de l'église. Et c'est toujours bien de se rappeler les débuts de l'Église. Quand il est et comment l'Église a-t-elle commencé? Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu nous invites à nous pencher sur ta parole et à te voir dans ta parole. Seigneur, nous voulons mieux comprendre l'Église, ton Église, celle que tu as instituée, que tu as voulu. Seigneur, donne-nous de la vivre, chacun pour notre part et ensemble. Et Seigneur, donne-nous vraiment de nous amener dans ta pensée, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Quand et comment l'Église a-t-elle commencé? Eh bien, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est le début, la naissance de l'Église. Lorsque Jésus a envoyé le Saint-Esprit, promis sur ses disciples, qui étaient rassemblés à Jérusalem. Ils n'étaient pas dispersés. Là, ils étaient rassemblés. Alors, l'Église, c'est le rassemblement des croyants, des chrétiens. C'est le rassemblement des chrétiens. Les cultes en visioconférence, on était obligés, c'était mieux que rien. C'est utile quand on ne peut pas faire autrement. Mais ça ne remplace pas le rassemblement physique de chacun. le rassemblement physique des croyants, parce que lorsque l'Église se réunit, l'Église est là au milieu de nous. Pardon, Dieu est là au milieu de nous. Dieu est là avec nous. Lorsque l'Église se réunit physiquement, Jésus qui s'est incarné, il est là au milieu de nous. Alors on n'est pas chrétien tout seul dans son coin, et c'est bon de se le rappeler dans une société de plus en plus individualiste qui pousse les gens, qui isole les gens des uns des autres. Quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit parfois leur genre aussi, une société qui parfois vise à éloigner les gens des uns des autres. L'Église, c'est le rassemblement des croyants. L'Église, c'est le... Alors, pourquoi l'Église? Quel est le but de l'Église? Eh bien, l'Église, c'est le projet de Dieu. L'Église, c'est le peuple que Dieu s'est acquis pour lui. Elle est la création de Dieu, elle est la propriété de Dieu. Nous lui appartenons. Et elle n'est pas la propriété des hommes. Elle n'est pas non plus un club. Alors, Dieu s'est constitué l'Église pour lui. Comment est-ce qu'il s'est constitué l'Église? Comment il a commencé son projet? Eh bien, en donnant ce qu'on a célébré tout à l'heure par la Sainte Cène, en donnant ce qu'il avait de plus cher pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous avoir avec lui. Pour nous avoir avec lui, il a donné son Fils unique qui est mort pour nos péchés sur la croix et qui est ressuscité. Pour nous pardonner nos péchés, pour nous sauver. Dieu est saint et on peut s'approcher de lui que lorsqu'on est lavé de nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, mais en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et on peut s'approcher de lui. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » L'Église, c'est pas un club ou une... Quiconque peut rentrer dans l'Église, quiconque croit que Jésus est mort pour lui. Nous avons donc besoin d'être pardonnés de nos péchés, d'être purifiés de nos péchés. Mais le projet de Dieu va plus loin que de nous pardonner nos péchés. Le projet de Dieu va plus loin. Dans les lettres aux Églises, on y voit apparaître Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont présentes. Et quand on considère Dieu en trois personnes, alors bien sûr, nous, ça nous dépasse, un Dieu en trois personnes. C'est comme ça que Dieu se présente dans sa parole. Mais quand on s'arrête sur la nature de Dieu en trois personnes, on a beaucoup, vraiment on est béni, on a beaucoup à en retirer. Quand on considère Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le projet divin, c'est énorme, plus qu'énorme. Le projet divin, c'est de nous intégrer à la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La communion parfaite du Père, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu veut nous intégrer dans sa communion. Un Dieu en trois personnes. L'Église, il veut l'intégrer dans sa communion. Pourquoi? Pour célébrer sa gloire. Pour célébrer la gloire de Dieu. Tout œil le verra, n'est-ce pas? Et dans les trois personnes, eh bien, de la Trinité sont présentes dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. C'est Dieu le Fils, Jésus qui dicte ces lettres. Le Fils qui fait mention de son Père, souvent. Et chacun dans l'Église est exhorté à écouter ce que dit le Saint-Esprit. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est plus que gigantesque, c'est éternel, le projet de Dieu pour nous. Ainsi, tous ceux qui ont cru en Jésus le Fils, Dieu le Fils, sont devenus membres de la famille de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Et c'est pas rien quand on y réfléchit. Parce que nous bénéficions de l'amour du meilleur Père qui soit dans cette famille. Dans une famille, il y a un Père. Nous bénéficions de l'amour du meilleur Père qui soit. Et c'est pas tout. Le Saint-Esprit est le signe que nous appartenons à cette famille. Dans une famille, on a tous un lien familial. Eh bien, dans la famille de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui indique que nous faisons partie de la famille de Dieu. La Bible nous dit en Romains 8, verset 15, que nous avons, en effet, je cite, « reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père ». Autrement dit, Papa. Nous pouvons appeler Dieu Papa par le Saint-Esprit. Dieu est le meilleur Père qui soit. Il est notre Père. Nous sommes rentrés dans sa famille. Quand nous confessons le Fils, nous sommes rentrés dans sa famille. Alors, Dieu le Père, eh bien, en tant que famille de Dieu, Dieu le Père a suprême autorité et il a le droit de corriger sa famille, comme tout bon père de famille. Et nous avons le droit d'être corrigés par lui. Et parfois, il le fait. fasse qui nous aime. Si vous aimez vos enfants, parfois vous les corrigez pour leur bien. Sur cette église, il y en a 5. 5 sur les 7 qui reçoivent des reproches. 5. C'est plus que la moitié. Alors oui, Dieu le Père a toute légitimité pour reprendre sa famille, mais l'autorité de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, est inséparable de son amour pour nous. Son autorité est inséparable de son amour. Nous avons le meilleur Père qui soit. Et Dieu le Père n'a pas seulement voulu faire de nous sa famille, ses enfants, ce que nous sommes. Mais il a voulu de faire de nous, l'Église, l'épouse de son Fils, Jésus. Il a voulu faire de nous l'épouse de son Fils qui a payé le prix le plus élevé en donnant sa vie pour nous, par amour pour nous, en versant son sang précieux pour nous. Quelle famille plus que formidable. Dieu trinitaire, un Dieu en trois personnes. Ça fait amour multiplié par beaucoup. Parce que non seulement nous bénéficions de l'amour du meilleur Père qui soit, Dieu le Père, mais aussi de l'amour du meilleur conjoint qui soit, Dieu le Fils, Jésus. Nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. L'amour multiplié par l'infini. Nous bénéficions de l'amour éternel de Dieu. Jésus, il est l'époux de l'Église, il est le meilleur époux. Lui, on peut être sûr qu'il est fidèle à 100%. Et quel encouragement pour nous. Est-ce que nous désirons lui rester fidèle en tant qu'épouse de Christ? Lui, il veut et il le sera fidèle à 100% jusqu'au bout. Est-ce que nous voulons rester fidèles avec lui dans la meilleure des relations conjugales, ou est-ce que nous flirtons avec le monde? Alors, il y a certaines lettres aux églises qui ont flirté avec le monde, de par leur position géographique, de par leur situation. Alors Jésus a non seulement toute la légitimité de corriger son Église, l'épouse qu'il s'est acquise, mais il écrit ces 7 lettres parce qu'il nous aime. Et vous autres qui êtes mariés, est-ce que vous vous rappelez votre correspondance avec votre fiancée avant d'être marié? Vous n'aviez pas à vous forcer, vous aviez juste envie de prendre le stylo, la lettre, et de lui écrire pour lui exprimer votre amour. Eh bien, ces lettres aux églises, c'est comme ça que nous pouvons les voir, comme des lettres d'amour que Dieu nous adresse, même s'il y a des réprimandes dedans. Parce que Dieu nous aime du plus grand amour qui soit. Alors, voyons mon deuxième point. Pourquoi ces 7 lettres nous concernent-elles tous, Église, aujourd'hui, de l'Église aujourd'hui? Eh bien déjà, arrêtons-nous sur qui sont les destinataires de ces lettres. Qui sont les destinataires? Vous avez remarqué 7 lettres adressées à cette Église locale. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ n'est pas organisée en une grande institution avec une hiérarchie. Le paysage chrétien, eh bien, il correspond, même si les églises sont différentes, parfois elles vont pas bien, c'est vrai, parfois elles vont bien. Mais c'est le modèle biblique d'avoir des églises locales, éparpillées, différentes les unes des autres. Et Jésus prend bien soin d'écrire une lettre à chaque église en particulier. Et vous avez remarqué, pour chacune, le message n'est pas le même. Et Jésus même se présente différemment à chaque église, selon sa situation, selon son besoin. Et c'est toujours Jésus. Chaque église a son profil, son identité, on peut dire, qui dépend du lieu où elle se trouve, donc de la culture ambiante. Une église ici à Figeac, c'est pas la même chose qu'une église en banlieue parisienne. On en vient. Et c'est pas vraiment la même ambiance, on peut dire, mais c'est toujours l'église de Jésus-Christ. Chaque église, donc, elle a son propre profil qui dépend du lieu où elle se trouve, de la culture ambiante dans laquelle elle baigne. Et qui va forcément l'influencer. Par exemple, l'église de Laodicée, elle était riche matériellement, alors que l'église de Smyrne, il est dit qu'elle était pauvre matériellement. Et aujourd'hui encore, les églises sont différentes les unes des autres. Il y a par exemple une des grandes églises, on a connu une grande église comme le BTM à Toulouse, une église de près de 300 personnes, ou des petites églises plus petites comme celle-ci, comme celle de Cahors. Mais toute reste l'église de Jésus-Christ qui a l'œil, il a l'œil sur son église, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Non seulement il a l'œil sur chaque église, mais il a l'œil sur chacun de vous, sur chacun de nous qui constituons son église. Il connaît et il scrute chaque église et chaque membre de son église. D'ailleurs, il se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Chapitre 2, verset 18. Et quand on reprend les sept lettres, souvent Jésus commence par... Il s'adresse à l'église en disant « Je connais ». Alors pour les unes, la plupart, « Je connais tes œuvres ». Il connaît les œuvres. Il connaît leurs œuvres, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Pour les autres, il connaît leurs souffrances. Il dit pas « Je connais tes œuvres », il dit « Je connais ta souffrance, ta tribulation ». Il s'agit de l'église de Smyrne. Ou encore pour une autre église, il connaît leur lieu, là où elles sont. Il connaît, c'était le cas pour Pergame. Il n'a pas dit « Je connais tes œuvres » pour Pergame, il dit « Je connais là où tu résides, là où est le trône de Satan ». Jésus connaît tout. Il sait exactement et rien ne lui échappe de ta situation et de la situation de l'église. Alors ces lettres, eh bien, elles s'adressaient non seulement aux églises du premier siècle, mais elles s'adressent, puisqu'il y en a sept, et sept étant le chiffre parfait, ça s'adresse à toute époque, à toute église, en tout lieu, à toute époque. Et donc à nous aujourd'hui, les sept lettres. Et on a entendu la dernière fois, le reportage le disait bien, et on peut effectivement, tout à fait, on peut tirer cette conclusion que l'église de Laodicée, l'église du premier siècle, eh bien, elle dresse aussi un tableau de l'état de l'église occidentale à notre époque. Parce que si cette lettre est dans la Bible, l'église, la lettre à l'église de Laodicée, c'est le cas. Des églises ont laissé le Seigneur dehors. Le Seigneur qui essaie d'entrer dans sa propre maison et qui frappe à la porte, poliment. Il essaie de rentrer dans son assemblée qui porte son nom. Jésus a prévenu. Il a prévenu qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et s'il l'a prévenu, c'est à nous de faire attention que notre amour ne se refroidisse pas, pour le maintenir chaud, bouillant pour lui. Matthieu 24, 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et oui, il faut bien faire le constat que des églises sont installées dans leur confort, leur richesse, pendant que beaucoup meurent sans jamais avoir entendu l'évangile. Au lieu de se charger de leur croix dans un esprit de renoncement, certains chrétiens affichent leur couronne sur Facebook. Ils ont leurs idoles, Internet, le sport, la télévision. Ça peut être aussi un soin immodéré de soi, l'image de soi qu'on véhicule sur Internet. Certains sont endormis, certains sont carriéristes. Ils amassent des trésors sur terre, alors que ça ne dure pas. Certains sont aveugles sur eux-mêmes. Certains ont juste le nom d'être chrétien, ont l'apparence d'être chrétien. Alors que Christ revient bientôt, le jour de ses noces, pour le jour de ses noces. Les sept lettres s'adressent à chaque église et à chaque membre de l'église. Alors oui, à chaque église et à chacun de se situer dans ces lettres-là. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes? À telle époque? À tel lieu? Et ces sept lettres sont là aussi bien pour nous encourager à garder ce qui va, aussi bien pour nous reprendre dans ce qui ne va pas. Et elles sont aussi là pour nous, par prévention, pour nous éviter de reproduire les mêmes erreurs que certaines ont faites par le passé, pour nous garder éveillés, par prévention. Et donc elles nous invitent à nous examiner. Chaque lettre commence par « écrit à l'ange d'eux », donc les destinataires de ces lettres. L'ange, c'est qui l'ange? En tout cas, on le comprend comme ça. D'autres le comprennent différemment, mais je crois que je l'interprète comme ça. Ces anges, ce sont pas des êtres parfaits. Un ange, c'est avant tout un messager. Les anges, ce sont les responsables des églises par qui Dieu passe pour parler à son église. Il faut parler à chacun dans son église. Comment témoignent les expressions qui sont présentes dans chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ou encore à celui qui vaincra. Lettre adressée à l'ange de chaque église, au messager de l'église, par lequel Dieu passe pour parler à chacun. Alors, il y a certaines organisations d'églises, des églises qui sont avec pasteur, parfois avec deux pasteurs, d'autres qui n'ont pas de pasteur, avec une organisation plutôt collégiale, et... En tout cas, pour celles qui ont un pasteur, eh bien, c'est biblique, et la tâche du pasteur n'est pas simple. J'étais à la pastorale toulousaine récemment, et quelqu'un a fait un partage qui et c'est un pasteur qui parlait. La tâche du pasteur n'est pas simple, parce qu'il lui faut trouver l'équilibre. Entre l'équilibre de conduire le troupeau, dont il a la charge, Et puis en même temps, il doit se rappeler qu'il n'est qu'une brebis parmi les autres brebis. Il est une brebis parmi les autres brebis dont il a la charge. Parce que le troupeau appartient à Dieu. Et en même temps, il a la responsabilité de conduire. Alors c'est pas facile de trouver l'équilibre pour un responsable d'église. Alors, quand toute l'église est ensemble, unie dans la direction, amen, dans la direction que Dieu veut. Alors oui, ces lettres nous apprennent que l'église ne sera parfaite qu'au ciel. Alors oui, il peut y avoir des fois des problèmes dans l'église, hein, on en a connu. Et quand quelque chose ne va pas dans l'église, eh bien, nous sommes tous responsables. Ne nous disons pas, c'est la faute des responsables, c'est la faute des pasteurs, des anciens. Nous sommes tous responsables, parce que tous solidaires, parce que tous faisons partie du corps de Christ. Et ce qui est vrai dans un sens, l'est vrai aussi dans l'autre. Toute l'église se trouve être au bénéfice de quelqu'un qui va bien. Que ce soit le pasteur ou quelqu'un d'autre, toute l'église en est bénie. Une seule personne dans l'église qui entend ce que l'Esprit dit aux églises, eh bien, il peut faire la différence. Il peut effectivement faire bouger les choses. Et toute l'église peut s'en trouver bénie quand on tend l'oreille. Oui, chacun aura sa récompense, personnellement, chacun, pasteur et aussi chaque membre, qui seront restés fidèles. Alors, c'est vrai que la question m'est apparue. Deux églises, seules deux églises sur sept ne reçoivent aucun reproche. Et c'est bien de se pencher sur, essayer de rapprocher ces deux églises, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Qu'est-ce qu'on peut apprendre, mon troisième point, de ces deux églises sans reproche qui sont citées dans l'Apocalypse? La première des deux églises à laquelle aucun reproche n'est fait, c'est l'église de Smyrne. Et le message adressé à l'église, et c'est une église qui est persécutée. Le message adressé à l'église de Smyrne et à toute l'église aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas craindre, même la mort, pour rester fidèle au Seigneur. Parce que Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, et qu'il est avec nous, et qu'il est avec tous ceux qui souffrent. Il a souffert, il comprend tout ce qui passe par la souffrance, et même il est avec eux. Et plus loin que ça aussi, cette lettre nous rappelle que la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. L'apôtre Paul le dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 12, je cite, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si tu aimes le Seigneur, si tu veux le suivre, attends-toi à la persécution. Mais Jésus a vaincu. On a des raisons d'être encouragés. La persécution fait partie de la vie du chrétien. Alors, peut-être ça effraie. La persécution, on la recherche pas. Elle vient bien d'elle-même. Mais si vous ne voulez jamais rencontrer d'opposition, si vous ne voulez jamais rencontrer de persécution, eh bien, d'après ces lettres, il vous suffit de manquer d'amour, comme l'église d'Éphèse. Si vous ne voulez jamais rencontrer de persécution, il vous suffit d'être laxiste avec le péché et avec les fausses doctrines, de les laisser entrer dans l'église, comme ce fut le cas pour Pergame et pour Thyatire. Si vous voulez ne jamais rencontrer de persécution, il vous suffit de faire comme si, de faire semblant, d'avoir juste l'apparence du chrétien, de soigner l'apparence plutôt que de soigner le cœur, comme l'église de Sardes. Si vous ne voulez jamais rencontrer de persécution, il vous suffit d'être tiède, sans conviction, à la fois oui et non, comme la Odyssée. Si vous ne voulez jamais avoir de persécution, il vous subir, bien oui, de ressembler aux cinq églises restantes qui ne reçoivent, qui ont chacune des griefs de la part du Seigneur. La persécution fait partie de la vie du chrétien, avec l'encouragement que Jésus est là et qu'il est victorieux. Je vais y revenir, et que nous pouvons être victorieux avec lui. Le Seigneur ne dit pas à cette église de Smyrne qu'il connaît ses œuvres. Il ne lui dit pas, comme à la plupart, je connais tes œuvres. Il lui dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté et les calomnies. Il connaît les calomnies qu'il subit, chapitre 2, verset 9. Et effectivement, une église qui est persécutée, eh bien, a la moins de champ d'action, a la moins de liberté pour faire des œuvres. Nous, est-ce que nous sommes persécutés aujourd'hui? Alors, il y en a qui sont persécutés directement. Il y a une persécution qui est sournoise, qui vise à intimider les chrétiens. Alors que nous avons dans la loi française encore une certaine liberté de vivre notre foi. Nous pouvons encore faire des œuvres. Et ça nous interpelle. Quelles sont nos bonnes œuvres? Nous qui avons encore la liberté de culte dans notre pays, c'est pas le cas partout, hein. Si vous prenez l'Afghanistan, c'est le premier pays dans la liste des chrétiens persécutés dressés par porte ouverte. Et il y en a d'autres. Quelles sont nos œuvres à nous qui avons encore la liberté de culte dans notre pays? Parce que nos œuvres déterminent le degré de notre foi. Nos œuvres déterminent le degré de notre foi. Et Jésus nous sonde et il nous rétribuera chacun selon nos œuvres. Chacun selon nos œuvres. Alors oui, quand une église est persécutée, eh bien, elle n'a plus d'œuvres. Elle ne peut plus faire grand-chose. Qu'est-ce qui lui reste alors? Eh bien, il lui reste de rester fidèle. Il lui reste sa fidélité. Ce qui importe, c'est de rester fidèle, même dans la persécution. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus à l'église de Smyrne, en chapitre 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Il lui dit pas d'aller faire d'autres œuvres. Il lui dit de rester fidèle. Et au vainqueur qui sera resté fidèle, Jésus promet la couronne de vie. Je vais y revenir. Rester fidèle à cause de la persécution. Pendant la persécution. Alors, rester fidèle, oui, mais à qui? Eh bien, la deuxième église qui ne reçoit pas de reproche, elle va nous éclairer là-dessus. Et comment rester fidèle? La deuxième église va nous indiquer comment rester fidèle. Il s'agit de l'église de Philadelphie. Et dans cette église, il y a aussi question de couronne. Il y a aussi question de couronne, comme pour l'église de Smyrne. À elle, à l'église de Philadelphie, Jésus dit qu'il connaît ses œuvres. Elle a gardé la parole de Dieu et elle n'a pas renié le nom du Seigneur. Chapitre 3, verset 8. Ça veut dire quoi? Que pour rester fidèle, eh bien, il faut garder la parole. Il faut garder la parole qui est la parole de vérité. Gardons la parole, c'est elle qui nous gardera. Si nous gardons la parole de Dieu, si nous la vivons, nous pratiquons les œuvres qui ont les commandements de Dieu, eh bien, c'est elle qui va nous garder. Parfois, on se sent faible. Si tu veux être puissant, l'église de Philadelphie, elle avait peu de puissance. Mais sa force, c'était de rester dans la vérité. Si tu veux être puissant, refuse le mensonge et attache-toi à la vérité. Ça, c'est la vraie puissance. C'était le cas de Philadelphie, une petite église, faible en apparence, mais puissante parce qu'elle restait attachée à la parole de Dieu, à la parole de la vérité. L'église, elle est appelée la colonne et l'appui de la vérité, en 1 Timothée 3,15. Et une colonne, c'est du solide. Et c'était le cas de Philadelphie parce qu'elle restait attachée à la parole de vérité. Est-ce que vous trouvez facile de dire toujours la vérité? Est-ce que tu trouves facile de dire toujours la vérité avec des chrétiens et avec des non-chrétiens? Il y a des mensonges déguisés qui sont quand même des mensonges. Il y a des demi-mensonges qui sont quand même des mensonges. Quelques exemples. Par exemple, le téléphone sonne, on n'a pas envie de répondre au téléphone, et puis on dit aux conjoints ou aux enfants, écoute, tu réponds et tu leur dis que je suis pas là. C'est un mensonge. Et on entraîne l'autre dans son mensonge. Ou alors, on est invité et puis on n'a pas envie d'y aller, et pour refuser l'invitation, eh bien, on prétexte qu'on a déjà un rendez-vous ou qu'on est malade. Alors que c'est pas vrai. Attention. Parce qu'on peut tomber malade dans ce cas-là. Si on prétexte quelque chose qui n'est pas vrai. Ça peut devenir la vérité. Ou alors, entre conjoints, des disputes. Et on dit à l'autre, tu fais toujours tout de travers. Ou alors, tu ne fais jamais ce qu'il faut faire. Ou alors, tu ne dis jamais quelque chose de bon. C'est faux. Ce sont des mensonges qui accablent l'autre. Parce qu'on sait bien que l'autre, il fait des choses bonnes, il dit des choses bonnes, il nous fait du bien. Et quand on est en dispute, on agrandit le tableau et on ne voit plus que les défauts. Dans le monde du travail, parfois il y a des patrons qui écrasent leurs employés. Et pour justifier une charge écrasante, eh bien ils prétextent « la société vise l'excellence avec ses clients ». Nous visons l'excellence. Sauf que plus bas, eh bien, il y a les exécutants Et ils ont bien du fil à retordre. C'est difficile. Et puis, il y a d'autres mensonges qu'on trouve dans l'Église. Des mensonges bienveillants, entre guillemets. Des mensonges qui visent toujours à couvrir les fautes de l'autre. Toujours. À ne jamais le reprendre. Ce qui lui renvoie une fausse image de lui. Mais on n'est pas dans la vérité. C'est une chose que de toujours relever les défauts de l'autre. Bien sûr qu'on est exhorté à couvrir les fautes, mais quand ça se répète, est-ce qu'on est dans la vérité? Alors dire la vérité n'est pas toujours chose facile, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué. Soit on parle trop peu parce qu'on n'ose pas dire les choses, parce qu'on n'a pas appris à dire la vérité de la bonne manière. On n'ose pas, on a peur. Soit on parle trop et on parle trop durement par orgueil. Et ce sont deux extrêmes à éviter. Dire par exemple à quelqu'un « Tu seras jamais un bon ébéniste », c'est peut-être vrai, il est peut-être pas doué pour ça, mais ça sera pas aussi bien reçu que de dire « Tu n'es pas doué pour travailler le bois, par contre l'informatique, ça c'est ton truc ». Qu'est-ce qui manque dans le premier cas? Alors on lui a dit la vérité, oui, qu'est-ce qui manque? Eh bien il manque l'amour. Parce que l'amour va de pair avec la vérité. Et dans la lettre aux Éphésiens, vous savez, l'église d'Éphèse, c'est elle qui manquait d'amour. Pourtant, l'apôtre Paul, il a exhorté l'église d'Éphèse à soigner l'amour, à le développer. Dans l'épître aux Éphésiens, voici ce que dit l'apôtre Paul, chapitre 4, versets 14 et 15. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Amen. Dire la vérité avec amour. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que rester attaché à la vérité seule ne suffit pas. Parce que la vérité est inséparable du véritable amour, de l'amour vrai. Et l'amour vrai est inséparable de la vérité. Et c'est intéressant parce que dans ces sept églises, eh bien, il y en a une qui défendait bec et ongle, on peut dire, la vérité, mais qui manquait d'amour. L'église d'Éphèse. C'était le reproche que Dieu lui adressait. Et il y en a une autre, qui par contre, elle soignait l'amour, elle avait l'amour, mais au sacrifice de la vérité. Elle avait laissé rentrer les fausses doctrines, qui induisaient les gens, qui les poussaient à la débauche. C'était l'église de Thyatire. L'une avait la vérité sans l'amour, l'autre avait l'amour sans la vérité. Deux églises citées dans ces lettres-là. Alors c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais pourtant c'est possible. Et ça nous amène à cette question, est-ce que toute vérité est toujours bonne à dire? Est-ce que toute vérité est-elle toujours bonne à dire? J'ai envie de dire, ça dépend. Et je dirais aussi, oui, certainement, ça dépend de ta motivation. Elle est bonne à dire. Alors, dans quel cas elle est bonne à dire? Plutôt en premier, dans quel cas n'est-elle pas bonne à dire? Si je veux, ok, je défends la vérité. C'est pour avoir le dernier mot. C'est pour défendre ma petite personne. C'est pour finalement avoir le dessus. Si c'est pour avoir le dessus sur toi, je veux défendre la vérité absolument. Ça, c'est pas la bonne motivation. Par contre, si je veux dire la vérité en visant ton bien, pas ma petite personne, mais ton bien, alors là, oui. Là, c'est la bonne motivation. Et là, ne nous privons pas de dire la vérité avec la bonne motivation pour le bien de l'autre. Alors, comment dire la vérité dans l'amour? Eh bien, comment aimer sans tolérer le mensonge, sans hypocrisie? Et d'ailleurs, il y a un autre passage qui dit une exhortation que l'amour soit sans hypocrisie. Dans la Bible. Je n'ai pas la référence là. Comment dire la vérité dans l'amour? Eh bien, en allant à celui qui est la vérité et à celui qui est l'amour. C'est-à-dire en allant à Jésus. Jésus, il est, c'est pas qu'il a la vérité, il est la vérité incarnée. Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Allez à Jésus. Et Jésus est appelé deux fois le véritable, dans la lettre à l'église de Philadelphie, en 3, verset 7, et à l'église de Laodicée, 3, verset 14. Jésus est la vérité, il est le véritable. Et il est non seulement la vérité incarnée, mais il est l'amour incarné. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Alors oui, en allant à Jésus, nous pouvons dire la vérité dans l'amour. Jésus, il a toujours dit la vérité. Aucun compromis chez lui. Il a toujours dit la vérité dans l'amour. Il défendait pas sa grande personne. Et à quoi ça l'a conduit ? À la croix. À la croix. Jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à donner sa vie. Mais la vérité et l'amour ont triomphé parce que Jésus est ressuscité. La vérité et l'amour ont triomphé parce que Jésus est ressuscité. Alors oui, si tu as besoin, et j'en ai besoin, et c'est pas facile, on a tous besoin d'apprendre à dire la vérité dans l'amour, allons à Jésus. Allons à Jésus. Et il sera avec nous pour nous aider. Où est-ce qu'on trouve Jésus ? Il est vivant, il est là. Il est là. Jésus, il est la parole de Dieu incarnée. Il est dans l'Écriture. Jésus te gardera. La parole te gardera si tu gardes la parole. Elle nous gardera comme pour l'église de Philadelphie, à condition que nous voulions garder fidèlement la parole de Dieu, de nous en nourrir quotidiennement. Nous avons notre responsabilité, même si nous avons été choisis. Nous avons été choisis par Dieu. Mais attention, l'élection ne garantit pas, dans tous les cas, que tout va bien se passer. Regardez Judas. Judas a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ça ne l'a pas empêché de trahir Jésus et d'aller se pendre. Il avait été choisi. Pourquoi est-ce qu'il a fini comme ça ? Parce qu'il aimait quelque chose plus que Jésus. C'était l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qu'il a perdu. Jésus passait après. Où est ton véritable amour ? Où est notre véritable amour ? Jésus, effectivement, il nous a choisis. Et quand tu veux garder la vérité, eh bien, elle te gardera. Quand tu veux garder la parole de Dieu. Je crois que tout le monde sera d'accord de dire que la vie chrétienne est une course d'endurance. C'est une course d'endurance. C'est une course qui n'est pas facile dans ce monde. Mais la victoire est possible. La victoire est possible pour chacun d'entre nous en demeurant fidèle. Pourquoi la victoire est-elle possible ? Parce que Jésus est non seulement l'alpha, le commencement de l'Église, mais il en est aussi l'oméga. Il en est le but suprême. Pourquoi, mon quatrième point, Jésus, donc, il est l'oméga de l'Église. Pourquoi est-ce que c'est possible de demeurer fidèle ? Eh bien, parce que Jésus a obtenu la victoire sur tout ce qui nous séparait de Dieu. Nous avons accès au Créateur de l'univers par Jésus-Christ, celui qui a vaincu. Il a eu la victoire sur tout ce qui nous séparait de Dieu, à savoir notre péché. Et si nous restons en communion avec le vainqueur, Jésus, eh bien nous vaincrons aussi. Et surtout, Jésus est il est notre époux en tant que nous sommes l'Église, il est l'époux fidèle à 100%, même à 200%. Alors, il est notre assurance qui nous amènera là où il veut nous amener. À quoi il veut nous amener ? À être la mariée. Purifié de tout péché, une belle mariée en blanc. C'est à quoi il veut nous faire devenir. Et il le fera parce qu'il est fidèle. Jésus est et il restera fidèle à l'Église parce que l'Église est son épouse et que lui il est son époux. Même si l'Église est infidèle et ça a été le cas déjà au premier siècle, Jésus est fidèle. Aucune infidélité chez lui. Il la mènera jusqu'au bout. Et si tu aimes ton conjoint, tu as envie de lui rester fidèle, n'est-ce pas ? C'est parce que Jésus est fidèle que nous pouvons être sûrs qu'il nous amènera jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'état de cette belle mariée pour lui. Belle mariée en blanc, parfaite, belle. Et vous avez remarqué, chacune des sept lettres, chacune, se termine par une récompense individuelle qui est promise au vainqueur, avec cette expression qui revient, à celui qui vaincra. À celui, hein. Il dit pas à l'église qui vaincra, à celui qui vaincra. Deux versets 7, 2 versets 11, 2 versets 17, 2 versets 26, 3 versets 5, 3 versets 12 et 3 versets 21. Chaque église a cette promesse-là. Alors ces récompenses, eh bien, c'est bien là aussi de prendre de la hauteur et de les lister. Je les ai listées quand j'avais abordé chaque église, mais récapitulons-les, ces récompenses, parce qu'elles sont grandioses, elles sont éternelles. Premièrement, au vainqueur, Jésus promet de manger de l'arbre de vie dans le paradis. Manger de l'arbre de vie dans le paradis, c'est la vie éternelle en Jésus, avec lui et en lui. Chapitre 2, verset 7. Au vainqueur, il promet encore la couronne de vie à ceux qui auront enduré la persécution. Ceux qui auront voulu rester fidèles, il leur promet la couronne de vie. Ils régneront sur ceux qui auront voulu régner sur eux. Il y aura un renversement de situation. Chapitre 2, verset 10, 11, chapitre 2, verset 26. Et ils s'assieront avec Jésus sur son trône pour régner avec lui. Chapitre 3, verset 21. Je ne sais pas si on se rend compte. Le règne, régner avec Jésus, s'asseoir avec lui sur son trône. Mais c'est ce que le diable a voulu faire dès le commencement, en voulant prendre la place de Dieu. Sauf que là, Jésus offre cette place gratuitement à celui, celle qui se soumet à sa volonté. Le diable, il essaye de voler cette place. Jésus la donne à celui qui veut lui rester fidèle et qui se soumet à sa volonté. Quelle grâce! Au vainqueur, Jésus promet encore de manger la manne cachée. La manne cachée, c'est un symbole d'une communion parfaite entre Jésus et nous. Et là, il y a vraiment l'image du mariage qui est là. Le vainqueur, il portera le nom de l'époux et il recevra un caillou blanc, symbole de la victoire, avec un nom nouveau écrit dessus. Au vainqueur, il promet l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est, quand vous regardez une étoile, c'est ça scintille. L'étoile du matin, c'est la gloire de Jésus. Jésus partagera sa gloire avec nous. Chapitre 2, verset 28. Au vainqueur, il promet de marcher avec lui en vêtements blancs. De marcher avec lui en vêtements blancs. Les vêtements blancs, eh bien, c'est pas notre justice, c'est sa justice dont nous sommes couverts. De ce qu'il a fait pour nous. Et au vainqueur, il promet enfin de faire une colonne dans le sanctuaire de Dieu pour être éternellement en sa présence. Chapitre 3, verset 12. Alors, quand on considère tout cela, eh bien, le Seigneur Jésus, il est l'alpha de l'Église, il est déjà venu. Il est le commencement de l'Église. C'est encore lui qui intervient personnellement, hein. Il intervient personnellement dans la vie de chaque Église, chaque croyant, en promettant de venir lui-même, soit pour réprimander l'Église, soit pour l'encourager. Et c'est encore lui qui viendra personnellement remettre la récompense, sa récompense à chaque croyant. La récompense suprême aux croyants qui seront restés fidèles, d'après les œuvres et les paroles de chacun. Cette récompense suprême, quelle est-elle? C'est Jésus lui-même. Il est la récompense suprême. Il est non seulement l'alpha de l'Église, mais il est l'oméga de l'Église. Et c'est lui qui l'amènera jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez faire partie de cette foule que Jésus récompensera? Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous considérons, Seigneur, avec notre cœur, avec nos yeux humains, tout ce que tu as fait pour nous, toi qui es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, quand nous considérons ton amour pour nous, la portée de ton amour, Seigneur, si grand. Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin, Seigneur, de nous tourner vers toi à chaque instant et nous avons besoin de toi pour te rester fidèle et que notre amour brûle chaque jour davantage pour toi, pour te rester fidèle, Seigneur, dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de toi, dans un monde qui va à sa perte. Seigneur, garde-nous, garde ton Église, Seigneur. Et que dans ce temps de grâce encore où nous sommes, eh bien que nous brillions de ton amour, Seigneur. C'est vrai que c'est toi qui distribues, Seigneur, ton amour. C'est toi qui nous rends capables parce que tu es présent dans nos vies chaque instant, Seigneur. Alors donne-nous de vivre cet amour, Seigneur. Donne-nous de prêter foi à la vérité. Comme on a entendu ce matin, Seigneur, les actualités visent à nous saper le moral et on entend beaucoup de choses, mais Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur la vérité de ta parole, sur ce qui nous attend avec toi, et à te rester fidèle. Rappelle-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, la portée de ton amour pour nous, pour que nous te soyons aussi fidèles et obéissants. Merci, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.